Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives. D'abord, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'été est à nos portes, ou on va peut-être parler de printemps avant, donc voilà. Je me souviens plus de tout ce que j'ai dit au dernier épisode de Non Élucidé, la dernière saison. Nous en sommes au 62 ou 63e épisode de Mémoire d'archives, mais pour ce qui est de Non Élucidé, on en est rendu à la 41e épisode, donc ça veut dire qu'on a vu déjà au moins 40 dossiers d'affaires non élucidées, c'est pas rien. Je sais qu'on a couvert beaucoup, là, une grande période de l'histoire depuis les débuts de la Nouvelle-France. Là, on va essayer, je vous promets d'essayer de passer un petit peu plus rapidement la partie que je considère plus historique, donc le 19e siècle. On va rentrer dans le 20e siècle tranquillement, et là, je pense que ça va vous rejoindre un peu plus. Il y a des cas qui nous ressemblent, si on veut, entre guillemets, qui nous ressemblent plus. On s'identifie plus dans ça, ça ressemble. On a plus d'informations aussi, parce que bon, on va voir justement aujourd'hui, on va voir trois cas de néonaticide encore, pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'épisode sur le néonaticide. Eh bien, c'est le meurtre d'un bébé généralement commis par sa mère dans les premières 24 heures de sa vie. Et voilà, ça résume tout, mais c'est vrai, la catégorie, c'est comme ça. Donc, on va en avoir trois en même temps, donc on va avancer plus vite. Oui, j'ai pris une pause depuis le dernier épisode de Non Élucidé. Je n'ai fait qu'un épisode. J'ai commencé aussi la série Blanche Garneau. Pour donner tout le contenu finalement du livre que j'avais publié sur cette affaire-là en 2017. Alors, pour ceux et celles qui veulent étudier une affaire non élucidée en profondeur, eh bien c'est l'occasion idéale. Je livre toutes mes découvertes dans ça, chapitre par chapitre, donc ça donne le temps de gérer aussi, de y aller en profondeur et tout ça. Et vous allez voir que, oui, c'était très, très, très intéressant parce qu'il y a des parallèles à faire avec nos affaires d'aujourd'hui en lien avec l'affaire Blanche-Garneau. Il y a des choses, beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a des choses qui font sourire, d'autres non. Des choses tristes, évidemment. Mais aussi, vous allez voir que il y a beaucoup de questions, beaucoup d'énigmes, c'est épouvantable. Donc voilà, moi je me suis reposé quelque peu. Évidemment, là je profite de la pluie ce soir pour vous faire une balado. C'est ça, hein, le beau temps nous fait sortir, donc cet été, je vais profiter probablement des journées de pluie pour enregistrer en studio. Sinon, ben, je me suis promis de passer mon été de wow le plus possible parce que l'an dernier, j'ai acheté une maison et j'ai beaucoup rénové à l'intérieur. J'ai manqué plusieurs journées de soleil. Et cette année, ben, je fais un petit peu le contraire. Je rénove le terrain, je rénove l'extérieur. Donc, j'ai pas terminé encore ma terrasse, mais ça s'en vient. Donc je vais en profiter un peu plus, je vais pouvoir enfin m'asseoir et lire un bon livre, ce que j'ai pas fait depuis longtemps, je m'en confesse. Alors on va attaquer avec un premier cas, premier de trois cas non élucidés ce soir. Donc le premier se passe le 24 août 1889, donc ça se passait dans le coin des rues Saint-Mathieu et Saint-Marc à Montréal. Il y a deux scènes de crime dans ça. Hein? On va voir pourquoi. Donc, le 24 août, c'est en juin que des enfants ont découvert le corps d'un nouveau-né sur le terrain vacant qui se situait, bon, au coin des rues Saint-Mathieu et Saint-Marc à Montréal. Donc, imaginez ça, des enfants qui découvrent le corps d'un bébé. Bref, ça a dû les marquer pour le restant de leur jour. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est que le bébé, donc la petite victime, était enveloppé dans un morceau d'étoffe de coton blanc. Le coroner, lui, par la suite, a constaté que le petit corps ne portait aucune trace de violence. L'enfant serait mort, selon lui, par étouffement au moment de venir au monde. Donc, évidemment, oui, on parle de néonaticide. Il a été étouffé, dans le fond, tout de suite, là, après être sorti du ventre de sa mère. Et c'est ce détail-là, ça a poussé un journal à écrire que c'est, et j'ouvre les guillemets, que c'est ainsi qu'il arrive souvent à des enfants nouveau-nés lorsqu'un médecin n'est pas là pour leur donner les soins nécessaires pour faciliter le fonctionnement de la respiration. Là, c'est la Patrie qui disait ça. Oui. Non, c'est l'événement, pardon. Dans le journal L'Événement du 24 août 1889, si les petits chercheurs en herbe, si vous voulez aller voir et en savoir plus, ben c'est dans ce numéro-là. C'est drôle, hein? Je relis ça et puis je me dis, qu'est-ce qu'on voulait laisser entendre par cette phrase-là? Qu'un médecin soit présent ou pas, est-ce qu'on voulait parler d'avortement? Avortement, mais à la naissance? Parce que là, c'est sûr que c'est une affaire non élucidée. On ne sait pas si c'est la mère ou le... Mais généralement, comme je l'ai expliqué dans le néonaticide, sur la balado là-dessus, ben, généralement, c'est la mère là, qui est la tueuse dans ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu de cas que c'est la sage-femme ou une avorteuse, comme on dit, ou un homme aussi, ça peut être ça. Donc, on présume que c'est la mère. Mais d'un autre côté, ça laisse entendre aussi que cette mort-là pouvait être accidentelle. Est-ce que le bébé s'est étranglé avec son cordon ombilical en naissant tout de suite? Bref, ça manque de détails, évidemment, pour... Mais bon, le coroner a considéré que c'était criminel. Et il faut dire aussi que si c'était pas criminel, ben on se serait demandé pourquoi avoir abandonné l'enfant sur un terrain vacant. C'est logique aussi, là. C'est pour ça qu'une enquête, c'est très important de considérer tous les éléments autour. Si on étudie seulement juste l'étouffement, oui, c'est difficile à expliquer que ce soit criminel, ça pourrait être accidentel. Mais si c'était accidentel, ben là, on aurait appelé un docteur, on aurait tout fait. On n'aurait pas abandonné le bébé dans un champ comme ça. Là. Ce serait ridicule. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux scènes de crime dans ça. Je le dis pas tout le temps là, à chaque dossier, mais bon, ici, on devine qu'il y a eu la scène de crime, une première scène de crime qu'on ne saura jamais, c'est-à-dire le lieu où le meurtre s'est produit, donc chez la mère, probablement, dans un cabinet de toilette ou dans une chambre, ou aucune idée, ça n'a jamais été identifié, mais il y a quand même eu une première scène de crime. Et la deuxième, ben là, vous l'aurez deviné, c'est évidemment le terrain vacant où le corps a été retrouvé. Le deuxième dossier, j'ai pas vraiment de date pour le décès, mais c'est aussi un néonaticide, cette fois-ci qui est survenu à Elmer. Le 11 décembre 1889, le journal L'Événement, encore une fois, a fait mention d'une certaine Louise Lavert, qui était sur le point de comparaître pour infanticide. Donc, c'est comme ça qu'on a eu connaissance, que j'ai eu connaissance de cette affaire-là. Heureusement que les journaux, des fois, en parlaient, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas parlé de tous les crimes, malheureusement. Le crime se serait produit dans la région d'Aylmer, c'est ce qu'on comprend aussi dans ça. Et malheureusement, ben, nous n'avons trouvé, j'ai trouvé aucun autre détail qui permette de décrire les circonstances de cette affaire-là. Eh oui, même du côté des coroners, rien. Donc, c'est malheureux. On sait que bon, il y a eu un bébé et qu'il y a eu une certaine Louise Lavert qui a été accusée. Mais est-ce qu'elle a été reconnue coupable ou acquittée? S'il y a des gens d'Elmer qui veulent aller fouiller dans les archives, peut-être dans le primitif ancien, on aurait peut-être une réponse pour... Et je le dis tout le temps, hein, c'est pas pour moi que je le fais, c'est surtout pour vous. Pour avoir des informations le plus possible, si vous avez des informations sur des cas anciens ou sur des cas récents, moi, je fais pas de différence entre les deux. Je les trouve tous intéressants. Alors, si, bon, je sais pas, mais votre arrière-grand-père a commis un crime et puis vous voulez en parler, Ben, il n'y a aucun problème. Moi, je vais prendre l'information et je vais la partager, que ce soit anonyme ou non, même les causes aussi les plus récentes. Et dans les détails historiques, là, je sais qu'il y en a aussi quelques chercheurs. Là, je ne suis pas le seul. Il y a des passionnés qui j'ose pas dire des rats de bibliothèque, là, mais il y a des passionnés qui sont dans les salles de recherche de BANQ à travers la province. Je les salue d'ailleurs parce que c'est un travail de moine. Et bon, j'en ai fait partie moi aussi. Je parle au passé parce que maintenant, ben, le travail m'oblige. Je travaille dans un milieu quand même qui est pas très loin de ça, mais qui m'oblige à travailler à temps plein. Et j'ai plus le temps, malheureusement, d'être dans les salles de recherche de BANQ, mais regardez-moi bien aller à ma retraite, comme on dit. Probablement que je vais faire partie des mêmes, en tout cas. Mais je les salue, ces chercheurs-là, chercheurs et chercheuses, évidemment. J'ai discuté avec quelques-unes d'entre eux déjà, on se croisait, puis il y a toujours la passion hein, de ça. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais vous dire par ça, c'est que partager, il n'y a rien de mieux que de partager l'information. Et c'est ça, des fois, qui j'ai espoir qu'en partageant l'information, ça fait débloquer des choses. Donc, dans les affaires non résolues, les mystères, bien, toujours espoir de découvrir quelque chose. Moi, je peux découvrir quelque chose qui va susciter quelqu'un à découvrir autre chose. Et là, ça fait boule de neige. Et puis, au final, bien, on peut rassembler une histoire quand même assez intéressante, des fois. Donc, le troisième et dernier cas, qui est aussi là, on parle peut-être plus de filicide ou d'infanticide, vous allez savoir pourquoi. Cette fois-ci, par contre, on sait que c'est un petit bébé de sexe féminin, donc une petite fille, et ça se passe à Chambly. En avril 1891, donc on est 2 ans après les deux cas qu'on a parlé tantôt, il y a une enquête de coroner qui a été tenue sur le corps d'un enfant âgé d'environ 2 mois, et qui a été retrouvé près de l'île Meunier, à environ 2 milles du village de Chambly. Donc, si l'enfant était âgé de 2 mois, ben là, on ne parle plus de néonaticide, on parle de filicide ou d'infanticide. Je le répète, filicide, c'est le meurtre d'un enfant âgé de plus de 24 heures, jusqu'à 18 ans finalement, commis par un membre de la parenté. Donc, par le père, par la mère, ou on peut inclure aussi un grand-père, ou quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être aussi une belle-mère, je le répète aussi, comme dans le cas de Aurore, l'enfant martyr. On considère que c'est un filicide parce que même si ce n'était pas sa mère naturelle, c'était sa mère quand même par question de responsabilité, de droit et tout ça. Donc, un peu comme un tuteur, si on veut. Donc, c'est ça un filicide. Et l'infanticide, ben, c'est le meurtre d'un enfant commis par une personne étrangère, autre que la famille. C'est assez simple, mettons. Pour ce cas-là de Chambly, le journal La Justice, c'est pas un journal qui m'a servi souvent dans mes recherches, mais bon, cette fois-là, ça a été bien. On apprend que l'enfant était bien vêtu au moment qu'on l'a découvert. Elle portait une longue robe de flanelle blanche et un jupon. Et ici, je rouvre les guillemets pour citer le journal. « Par ses habits, on est porté à croire qu'il devait appartenir à des parents assez riches. » Là, c'est difficile à juger. Hein? On n'a pas de photos, on n'a pas d'images, on n'a rien qui a survécu à ça, ou pratiquement pas. On n'a surtout pas les vêtements. Mais on doit se fier à ça, à cet extrait-là de journal. Donc, si les vêtements appartenait à une famille riche, ben ça veut dire que le crime ne touche pas seulement les familles pauvres. Loin de là, hein? Et finalement, le coroner s'est convaincu là, qu'il s'agissait, lui, d'un meurtre, et il croyait que l'enfant avait été jeté à l'eau au cours de l'hiver. Donc, voilà, c'est triste, on ne peut pas en dire plus. C'est tout ce qu'on sait à propos de cette pauvre petite fille-là, dont on ne saura jamais le nom.